Hola, bona tarda. Comencem ara, si un cas, el que seria l'àmbit 2, que hem titulat el nou comportament del mercat emissor. Faré una presentació dels ponents. En principi, el primer a parlar sobre el senyor Jean-Pierre Lossat-Ogetà, que per un error nostre no és de la Universitat Autònoma, sinó de la Universitat de París. Després parlarà el senyor Daniel Clarí, de la Universitat d'Angers. Per acabar amb el senyor Augusto Huesca, de l'Organització Mundial del Turisme. Té la paraula el senyor Jean-Pierre Lossat-Ogetà.
Sobre todo, soy muy contento de estar aquí, en el CITAT de Girona. Y muchas gracias a todos, profesores, colegas, estudiantes. Mais pour ma présentation sur le thème d'aujourd'hui, vous me permettrez de la faire en français. Le thème que je voulais aborder et qu'on m'a demandé d'aborder touche essentiellement les nouveaux modèles touristiques. Non seulement, bien entendu, en Espagne, mais sur un ensemble plus large, puisque la problématique que je vous propose, c'est de s'interroger sur ces nouveaux modèles. Existe-t-il d'ailleurs de nouveaux modèles? Est-ce qu'on peut parler de nouveaux modèles? Et déjà ce matin, avec mes collègues précédents, je pense que une des grandes questions a déjà été posée, puisqu'on a vu par exemple que s'opposer de façon très simple des modèles des Baléares, des modèles de la Costa Brava et peut-être d'autres. Alors à mon avis, il me semble que parler de nouveaux modèles, c'est difficile, c'est complexe. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a là une difficulté qu'il va falloir essayer de contourner. Par ailleurs, pour avoir une idée plus large, j'ai décidé de vous présenter un certain nombre d'éléments, non seulement sur l'Espagne, bien sûr, mais à une échelle géographique beaucoup plus large, puisque j'emprunterai mes modèles et mes exemples sur l'ensemble de la Méditerranée. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de modèles, si c'est un cas unique, c'est pas tout à fait un modèle. Donc s'il s'agit de modèles, cela signifie que peut-être, une des questions de la problématique, c'est de savoir, un, existe-t-il de nouveaux modèles? Deux, est-ce que c'est répétitif? Est-ce qu'on va les retrouver sur d'autres littoraux? Et puis, il y a un autre problème qui s'est posé. Nous avons comme problématique principale les modèles littoraux, mais nous allons voir qu'aujourd'hui, il apparaît comme extrêmement difficile de dissocier ce qu'on pourrait appeler les modèles littoraux au sens strict, des proches arrière-pays, voire des arrière-pays. Voilà donc un ensemble d'éléments pour aborder cette problématique. Mais, pour être plus concret, nous allons les étudier, ces modèles, ou en tout cas les évoquer, autour de trois thèmes essentiels. Le premier, c'est le thème des flux. Et la méthode que je vous propose, c'est de partir d'abord du comportement des touristes. Et à partir du comportement des touristes, de la mobilité des touristes, nous allons nous rapprocher petit à petit des modèles. Car ces modèles s'appuient sur, premier thème, les flux. Deuxième thème, les activités. Non seulement il y a le déplacement des touristes, et ces touristes se déplacent pour quelles raisons? Quelles sont les activités de ces touristes? Et enfin, le troisième thème, qui est peut-être le plus complexe, celui qui permet de faire la synthèse, c'est le thème de l'organisation socio-territoriale des modèles. Car je crois que lorsqu'on parle de modèles, on doit inclure à l'intérieur des paramètres nombreux, aussi bien économiques que sociologiques, que culturels, que géographiques, que physiques. Et c'est la raison pour laquelle je pense que si l'on n'a pas une vue globale, systémique, de synthèse, il devient difficile de parler de modèle. Et puis, modèle, s'agit-il des modèles d'aujourd'hui ou s'agit-il des modèles de demain? Pour parler de nouveaux modèles, nous sommes bien obligés de nous appuyer sur le présent et sur le passé. Mais comme on a beaucoup parlé du passé ce matin, je parlerai, si vous permettez, du présent, surtout du présent. Et est-ce que ces modèles de 1995 seront les modèles de 2000 ou de 2005? Autre grande question. C'est pas sûr du tout. Et c'est un des aspects, je crois, de la perspective difficile du tourisme. Je ne vous cacherai pas que lorsque nous sommes attaqués à l'analyse prospective des flux touristiques ou des comportements de 2005, de 2015, et je me souviens d'ailleurs des prospectives touristiques que l'on faisait il y a 20 ans, par exemple, bien souvent, on s'est trompé. Bien souvent, on s'est trompé. Parce que faire de la prospective longue en tourisme, c'est très difficile. Entre 15 ans, 20 ans d'écart, il peut se passer tellement de choses dans le monde, alors que, lorsqu'on fait des politiques touristiques, on a toujours la fâcheuse tendance, à mon avis, c'est normal. Quand on fait de politique touristique, on fait de politique longue. Et on se dit, je vais développer le tourisme urbain, ou le thermalisme, ou le golf. Mais on oublie que le gros problème, c'est qu'on n'est pas sûr du tout que les organisations territoriales d'aujourd'hui seront celles de demain, et encore moins d'après-demain. Et il faudra que nous ayons bien ça en tête pour comprendre la démarche que je vous propose. Alors voilà comment je vais procéder. Je vais d'abord commencer par réfléchir avec vous sur les modèles de flux touristiques, si je puis dire. Et ensuite, nous irons petit à petit vers la complexité. Pour comprendre ces modèles de flux touristiques, nous allons démarrer d'une carte. Je vous explique un petit peu ce qu'est cette carte. Il s'agit d'une carte prospective qui a été réalisée en 1992 et qui porte sur la période 1992-1997. Alors, j'ai dit au départ qu'il me semblait très délicat de faire une prospective sur 15 ou 20 ans. Et il y a donc 2 ans, on m'avait demandé de tenter une prospective sur l'ensemble du bassin méditerranéen.
Modèle spatial, je veux dire par là qu'au point de départ, au 19e siècle, les premiers touristes sont allés sur le littoral, mais sur le littoral le plus proche, compte tenu des moyens techniques, des moyens de transport de cette époque. Et puis quand les moyens de transport ont évolué, quand ils se sont développés, quand les places modernes ont pu atteindre ces mêmes stations qui étaient fréquentées par les classes supérieures, il a fallu que les classes supérieures trouvent de nouveaux paradis, de nouveaux lieux où elles se retrouveraient tout seules. Et progressivement, c'est l'Europe entière, puis c'est le monde entier qui a été conquis par ce modèle centre-périphérique. Voilà à peu près comment a fonctionné ce modèle. Troisième trait, je vais très vite parce que ce modèle passé nous intéresse assez peu. Troisième trait, ce qui fait l'importance du phénomène touristique, ce n'est pas tant le fait d'aller à la mer ou d'aller au sport d'hiver, ce n'est pas ça qui est un signe de reconnaissance à cette époque. Ce qui fait l'importance du phénomène touristique, c'est précisément que ceux qui sont allés dans certains lieux célèbres puissent dire « j'y étais ». Ce tourisme fait partie des pratiques de reconnaissance sociale. Reconnaissance du fait que l'on appartient à une certaine élite, à une certaine catégorie, puisqu'on a fréquenté les lieux que l'on pouvait connaître ou qu'il faut connaître pour être à la mode. Et d'un autre côté, c'est une pratique de distanciation par rapport aux autres. Voilà donc comment a fonctionné ce modèle centre-périphérique. Par rapport à cela, j'en viens à mon deuxième point tout de suite qui me paraît plus important. Est-ce que l'on peut dire que cet ancien modèle a disparu? Oui et non. Je vous soumets quelques réflexions. Je ne sais pas très bien, ce serait trop facile de dire très vite oui ou de dire très vite non. La fin du modèle spatial, là je crois que c'est le plus évident. Je pense que la mondialisation de l'économie, qui a fonctionné pour les matières premières, qui a fonctionné pour l'industrie, qui fonctionne pour les services, fonctionne aussi pour le Vivendo. Le monde entier est accessible maintenant à tout le monde pour pas cher, finalement. Il n'y a plus de lieu où l'on puisse se réfugier pour être tranquille. Quand Yvette vous citait ce matin cette citation qui est extraite du film, « No smoking », ce qui me frappe, ce n'est pas que la Costa Brava soit assez mal vue par ces Anglais, puisque c'est un auteur anglais qui a écrit le livre d'où est tiré le scénario. Ce qui me frappe, donc, ce n'est pas que la Costa Brava soit assez mal vue, c'est que ces pauvres Anglais n'ont plus pour se retrouver entre eux que cette terre glacée qui est le Groenland. C'est ça qui est absolument révélateur. Le monde entier est maintenant dévoilé et je pense que ce modèle est achevé. Les tours opérateurs ont organisé le monde entier pratiquement à nos portes. Étant donné que nous sommes en période de crise, les tours opérateurs resserrent leurs prix et finalement c'est la baisse des prix à prix constant, si vous voulez, qui fait que le tourisme continue à se développer au rythme où il continue pour l'instant et au rythme où il a des chances de continuer à se développer pour les années à venir. Donc là, je pencherai peut-être pour dire que l'ancien modèle a disparu. Est-ce la fin du modèle social? Là, les choses sont beaucoup plus nuancées. Jean-Pierre vous a dit tout à l'heure, je crois, c'est très vrai que quand on interroge la clientèle touristique, on s'aperçoit qu'à 80 ou 85%, elle va toujours à la mer. Par conséquent, les destinations de base n'ont pas changé. On y reviendra tout à l'heure, ce qui a changé, ce sont les pratiques, il vous l'a dit lui-même, on ne vient plus à la mer simplement parce qu'il y a la mer, on vient plutôt à la mer pour ce qu'il y a derrière, ou pour ce qu'on va pouvoir faire tout autour. Mais je pense que les destinations d'ensemble n'ont pas tellement changé. En fait, ce qui a changé dans ce modèle social, mais ce n'est pas propre au phénomène touristique, c'est la montée de l'individualisme qui caractérise au fond notre époque depuis les années 75, les années 80. Un certain nombre de sociologues pessimistes, je pense à un sociologue français qui est Marc Fézioli, considèrent que c'est la fin de toutes les valeurs. Les jeunes, vous en faites partie, n'ont plus de référence, ils n'ont plus aucune valeur, ils ne croient plus en rien. Et par conséquent, c'est ça qui caractériserait notre société, qui caractériserait notre monde. Je crois qu'effectivement, ces comportements sociaux de masse, ces comportements, disons, de classe sociale, ont pratiquement disparu. Les gens qui partent en vacances, ils partent maintenant pour leur propre plaisir. Ils n'y partent plus pour faire comme tout le monde. Ils n'y partent plus parce que c'est le propre de leur catégorie sociale de partir à tel moment pour tel lieu. Ils y partent parce qu'ils ont envie de partir. Ça ne les empêche pas de partir. Donc je crois que ce qui est important, c'est ce bouleversement qui s'explique peut-être partiellement par la saturation, je dirais, des pratiques anciennes. Mais à mon avis, ce n'est sur le plan du domaine touristique que d'autres pratiques que nous voyons dans d'autres structures de consommation, c'est le phénomène du consumérisme dont il était question tout à l'heure. Consumérisme, vous retrouvez parfois ce terme consommation, mais il faut faire extrêmement attention, c'est une consommation raisonnée. Ce terme a été employé d'abord à propos des grandes surfaces. C'est vrai que lorsque les grandes surfaces se sont développées dans les villes ou dans la périphérie de nos villes dans les années 1960, les gens y allaient pour acheter n'importe quoi sous prétexte que c'était moins cher. Alors, ils dépensaient plus pour des produits de moins bonne qualité, mais ils étaient contents. Le consumérisme a été pris en charge précisément par des Américains, là encore c'est un modèle américain, pour éduquer les gens. Pour leur montrer que dans une grande surface, il y avait différents produits et que l'on pouvait choisir entre ces différents produits le meilleur rapport qualité-prix. Et bien, ce qui s'est passé pour les grandes surfaces se passe aussi pour la grande surface touristique qui est devenue le monde entier. Et l'on choisit le meilleur rapport qualité-prix. Bon, voilà les généralités. Ce qui me fait hésiter tout de même, c'est qu'à mon avis, il faut introduire là-dedans, avant d'aller plus loin, de très grandes nuances. Très grandes nuances, à la fois des nuances sociales et des nuances spatiales. Première nuance, ces nouvelles pratiques, elles se développent. Je reste quand même persuadé, je me trompe peut-être, je reste quand même persuadé que la grande masse des tourismes fonctionne selon l'ancien modèle, parce que nous en parlions ce matin, il fonctionne surtout à l'aide d'images. Et la plupart de nos images touristiques sont des images tout à fait idéales, qui tombent progressivement, qui disparaissent progressivement, mais nous avons affaire à des théos qui sont suffisamment intelligents, qui nous fabriquent sans cesse de nouvelles images, et par conséquent, nous avons tout de même toute une clientèle qui reste captive de ces images. Comme quoi, on le disait ce matin, même si elles sont fausses, fabriquer des images, c'est encore quelque chose qui reste essentiel dans le domaine touristique. Bien sûr, le tout, c'est de savoir si on veut que ce soit des images qui durent ou des images qui s'effondrent rapidement, mais je reste tout de même persuadé que cette notion d'image est une notion qui est assez essentiel. Si bien que nous sommes conduits dans le domaine social à diviser finalement les touristes ou les touristes potentiels en un certain nombre de catégories. Il y aurait, si vous voulez, une masse encore importante de gens fonctionnant selon l'ancien modèle, donc des gens qui sont attirés par la mer, des gens qui sont attirés par un certain nombre de lieux reconnus, qui vont, selon certaines habitudes, qui commencent à être périmées. Et cela représenterait, dans l'ensemble, si je prends des pays industrialisés, les enquêtes qui ont pu être faites, soit en France, soit en Grande-Bretagne, cela représenterait encore un bon tiers de la clientèle touristique. Au-dessous de cela, parce que je crois qu'il faut en parler, il y a de plus en plus, dans nos sociétés occidentales, un groupe d'exclus. Et cela, ça me paraît important. Un groupe de gens qui, il y a quelques années, partaient en vacances. Et qui, du fait de la crise économique, ne partent plus en vacances. Alors, on parle bien de tourisme international, de développement, de conquête de nouveaux territoires, de tout ce que vous voudrez. Il faut aussi penser de temps en temps à ces gens-là, qui n'ont plus les moyens de rien. Et ces gens-là qui sont de plus en plus nombreux dans nos sociétés occidentales. Au-dessus de cette clientèle de masse, il y a par contre une clientèle qui se développe et que je subdiviserai en deux groupes. La clientèle de niveau supérieur. La clientèle des enquêtes en France ont appelé cette clientèle une clientèle de prestige. C'est la clientèle des cadres supérieurs, qui sont pris par le temps, qui n'ont pas de temps à eux, qui ont de l'argent disponible, mais qui n'ont pas le temps de dépenser cet argent. Des gens qui partent en vacances, en fait très peu de jours par an, pour des vacances véritables, mais qui vont avoir un certain nombre d'occasions de partir en loisir, partir 24 heures, partir 48 heures, partir peut-être 4 ou 5 jours à l'occasion de tel ou tel contrat ou telle opération qu'on passe dans un pays quelconque. Donc ce sont des gens qui vont avoir de nouvelles pratiques, venir à peu près n'importe où, puisque l'avion permet d'aller n'importe où, sans s'occuper du prix, parce qu'ils ont les moyens, mais pour 4 ou 5 jours de parenthèse dans une vie de travail intense. Et cela, c'est une clientèle potentielle qui est extrêmement importante. C'est la clientèle congrès, séminaire, c'est la clientèle des foires internationales, c'est la clientèle des différents colloques de médecins, etc., de gens qui vont faire un colloque à Singapour pour le plaisir de dépenser un petit peu plus d'argent et voir ce qui se passe autour. Et ça, c'est une clientèle qui est extrêmement importante sur un plan strictement économique. Et puis, entre cette clientèle supérieure et puis la masse, il y a une clientèle beaucoup plus intellectuelle qui est celle qui correspond à ces nouveaux comportements, à ces nouvelles pratiques. On parle beaucoup en France, et les sociologues ont beaucoup travaillé là-dessus, sur ce qu'on appelle les nouvelles classes moyennes. Nouvelles classes moyennes parce qu'on ne sait pas comment appeler ces gens-là. Ce sont toutes les professions qui commencent, je dirais, à se révéler en termes d'emploi lorsqu'on a 2 ou 3 ans d'université. C'est le niveau Bac+2. Ce sont des gens donc qui sont beaucoup plus intellectuels que les anciennes classes moyennes qui étaient formées par des contremaîtres, etc. Ce sont les gens qui correspondent à tout le corps enseignant, à toutes les professions dans le style métiers sociaux, les infirmières, les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés. Ce sont tous des gens donc qui ont une formation intellectuelle supérieure, mais des revenus moyens. Et ce sont des gens qui donc sont à la charnière de plusieurs catégories sociales. Par exemple, en France, ce sont les gens qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires dans le centre-ville, parce que le centre-ville est trop cher. Donc des gens qui ont les moyens d'être propriétaires, mais qui vont se faire construire une maison à 25 km de la ville, dans une petite commune qui leur paraît intéressante. Et ce sont ceux-là qui contribuent à l'étalement de l'espace urbain. Quand ils arrivent dans une petite commune, ils veulent que l'on crée un certain nombre d'équipements. Ils vont demander à ce qu'il y ait tennis, à ce qu'il y ait piscine. Ils vont demander à ce qu'il y ait une maison des jeunes. Ils vont demander donc à ce qu'il y ait une certaine animation. Et si vous voulez, ces gens-là sont les nouveaux créateurs de phénomènes touristiques. Parce que ce comportement qu'ils ont dans leur propre résidence, dans leur propre commune habituelle, ils l'ont dans leur lieu de vacances. Et comme ce sont des gens qui sont intellectuels, ils sont assez peu payés, mais ils ont assez de vacances, et ils partent assez souvent. Et par conséquent, ce sont des gens qui vont jouer un rôle d'essaimage de ces nouvelles activités, de l'expression de ces nouveaux besoins. Oui, j'hésite à parler de nouveaux modèles. Ce qui me frappe, c'est plutôt qu'il y a là une nouvelle classe leader qui ne correspond plus aux classes supérieures d'autrefois. J'ai l'impression que les nouvelles pratiques se développent surtout, enfin quand je dis eux, je parle au nom de X sociologues, mais ce sont surtout, me semble-t-il, ces nouvelles catégories moyennes qui jouent un rôle qui est important. L'autre nuance qu'il faudrait apporter, c'est une nuance spatiale. On ne peut pas, à propos du tourisme international, il faut parler de ce tourisme international puisque la Costa Brava s'est surtout développée par ce tourisme-là, on ne peut pas mettre dans le même panier, je dirais, tous les pays d'Europe. Ils n'en sont pas tous au même point sur le développement économique, ils ne sont pas tous concernés par la crise actuelle de la même manière, et par conséquent, il y a des stades différents. Je crois que l'ancien modèle a pratiquement disparu des pays scandinaves. L'ancien modèle est en train de disparaître de la clientèle française. Paradoxalement, nous aurons un collègue allemand tout à l'heure, j'ai l'impression, d'après mes lectures, que l'ancien modèle fonctionne encore pas mal en Allemagne. L'ancien modèle fonctionne encore très bien en Espagne, Portugal. Votre développement économique est un développement qui est plus récent que le nôtre. Vos pratiques touristiques sont plus récentes que nos pratiques touristiques. Par conséquent, il y a un certain décalage dans le temps. Et je crois que pour la Costa Brava, cette clientèle nationale est une ressource formidable qui est à développer, bien sûr. Et puis, une interrogation pour les années à venir. L'Europe est en train de s'ouvrir vers l'Est. Quand on dit que la Costa Brava, c'est Yvette qui en parlait ce matin, est une côte qui est enlaidie par le béton, etc., que devrait-on dire de la côte Mer Noire? La Costa Brava est toujours en paradis quand on la compare avec d'autres littoraux. Alors, si cette clientèle d'Europe de l'Est se développe, est-ce que ce n'est pas une clientèle potentielle pour les pays d'Europe occidentale? Je ne le sais pas. C'est une question que je pose. Toujours dans cet élargissement mondial, il faut peut-être que l'on réfléchisse précisément à ces nouveaux créneaux ou à ces nouveaux besoins. Bon, voilà par conséquent mes réflexions sur le nouveau modèle, ou est-ce que l'ancien modèle a disparu, est-ce qu'il y a un nouveau modèle qui se met en place. J'en viens maintenant à mon troisième point, c'est le dernier, rassurez-vous. C'est que plutôt que de réfléchir en termes de modèle, il me semble qu'il faut réfléchir en termes de pratique. Jean-Pierre en a parlé tout de suite, et je crois que c'est ça qui est essentiel. Ce qui caractérise, au fond, le tourisme à notre époque, c'est un ensemble de pratiques qu'on n'a pas toujours su prendre en compte à temps et qu'on ne sait peut-être pas très bien encore comment prendre en compte. Ces nouvelles pratiques, je les ai définies dans mon texte en trois termes pour essayer de faire simple, mais tout cela c'est bien schématique, il faudrait nuancer tout cela. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui caractérise ces nouvelles pratiques, c'est cela qui me paraît essentiel, c'est un nouveau sens du temps. Je veux dire que autrefois, dans les années 1960, le tourisme des vacances était un tourisme de congés payés. Les gens avaient droit à 15 jours ou 3 semaines de congés payés par an, et par conséquent, ils en profitaient pour se défouler pendant ces 15 jours ou ces 3 semaines. On avait là, pour une période très courte de l'année, une grande masse qui se déplaçait sur certains littoraux qui avaient su se vendre à cette clientèle de masse. Il faut bien voir que depuis les années 1970-1975, là encore c'est un Américain qui avait dit ça dans les années 60, mais on n'y a pas fait tellement d'attention, c'est 20 ans après qu'on s'en rend compte, il faut bien voir que désormais, nous passons plus de temps dans nos différentes activités de loisirs, quand nous sommes jeunes, pendant que nous sommes au travail et quand nous sommes à la retraite, on passe plus de temps dans nos activités de loisirs que dans nos activités de travail, ou dans nos activités obligatoires tournant autour du phénomène travail. Le phénomène travail n'est plus qu'un périphénomène dans notre existence globale. En fait, nos pratiques loisirs, nos déplacements liés aux loisirs sont beaucoup plus importants. Et je pense que vous le faites vous-même, on constate qu'au fur et à mesure que les générations s'écoulent, le temps est distribué d'une manière complètement différente. Je me souviens dans les années 1960, quand on travaillait sur le phénomène touristique, quand on interrogeait les gens faisaient des économies tout au long de l'année pour pouvoir partir en vacances. Maintenant, les gens, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils en profitent pour partir en vacances. Il n'est plus question qu'on fasse des économies. Il vaut mieux vivre le temps que l'on a, vivre avec l'argent qu'on a. Si on en a moins, on va partir moins loin, on va partir moins longtemps, mais on ne se privera pas du plaisir de partir. Il faut être assez masochiste, d'ailleurs, pour se priver du plaisir comme cela qu'on peut se donner une fois de temps en temps. Ça me paraît évident. Eh bien, ce sens du temps implique effectivement de nouvelles pratiques de la part de ceux qui offrent. Pensez au véritable casse-tête que constitue cette clientèle versatile, cette clientèle absolument inconstante, pour les tour opérateurs qui ont l'habitude de faire des voyages d'un samedi à un autre samedi en remplissant un certain nombre d'avions à condition que l'on s'y prenne avec 3 mois d'avance. Quand la veille, on se dit, tiens, demain, j'ai envie d'aller au Baléares, on cherche tout de suite le TO disponible, l'avion disponible, et on va partir par n'importe quelle compagnie pourvu que l'on puisse partir. Il y a donc là une réorganisation qui me paraît nécessaire. Donc, première nouveauté, si vous voulez, ou première innovation, c'est cet autre sens du temps. Deuxième grand type de pratique, c'est ce que j'ai appelé des pratiques de plaisir. C'est ce qui me paraît l'énorme différence par rapport à ce qui se faisait autrefois. On ne vient plus dans tel lieu parce qu'il faut y aller, voir naître et mourir. Bon, cela c'est quelque chose qui est inné. On va dans tel lieu parce qu'on a envie d'aller dans tel lieu et on y va parce qu'on a envie de faire un certain nombre de choses qui vont nous faire plaisir. Alors ces nouvelles pratiques dont tous les sociologues ont travaillé là-dessus, et Jean-Pierre nous a montré un petit graphique qui montre bien que ces nouvelles pratiques sont des phénomènes naturels. Ce que l'on veut, c'est retrouver un certain espace naturel. Ce sont des pratiques qui sont liées au sens du corps. Et le sens du corps, là aussi, c'est quelque chose qui me paraît important. Cette évolution du sens du corps, là encore, il y a eu un autre sociologue qui a beaucoup travaillé sur ce sens du corps. Autrefois, le corps, il ne se montrait pas. Pas question que l'on soit nu ou que l'on soit dans une tenue légère. Le corps était revêtu par un costume et le costume définissait l'individu. L'ouvrier, c'est le bleu de travail. Le paysan, c'est une tenue particulière. Le cadre, comme le professeur dans une université, c'est le costume cravate. J'ai eu moi-même beaucoup de mal à me mettre à faire des cours sans avoir une cravate. Je me sentais gêné dès les débuts quand je n'avais plus de cravate. Maintenant, c'est devenu comme une habitude. C'est bien parce que je viens vous voir que je porte une cravate. Bon. Il y a là, si vous voulez, un sens du corps qui se définissait par le costume. Donc c'est le corps comme représentation sociale, là encore comme pratique ostentatoire. Puis, dans les années 60, c'était le corps comme prestige physique. Toutes les publicités vous montraient sur les plages touristiques des hommes très beaux, des femmes très belles, de façon à ce qu'on puisse révéler ce qui pouvait être idéal. Vous avez vu sur la diapositive du Club Méditerranée que vous a montré Jean-Pierre, maintenant c'est papy qui fait du sport, c'est le grand-père qui fait du golf, qui fait du cricket, qui fait du tennis, et qui a autant de plaisir dans cette pratique sportive à en faire à son propre niveau, selon ses propres moyens, quand il est essoufflé, quand il est fatigué, il s'arrête, mais voilà ces nouvelles pratiques. Donc, nouvelle pratique corporelle, nouvelle pratique par rapport à la nature. Et il y a comme cela beaucoup d'autres pratiques que je pourrais développer, mais comme il me reste très peu de temps, je passe à mon troisième point. Le troisième point qui me paraît essentiel aussi, c'est, je dirais, la nécessité ou la nouvelle nécessité ressentie par la clientèle d'un tourisme intégré. C'est un terme qu'on a beaucoup utilisé dans les années 80, lorsqu'on a découvert les pays, la notion de pays en ce qui concerne la France. Tourisme intégré, cela veut dire deux choses. Le tourisme intégré, c'est-à-dire que c'est un tourisme qui est intégré dans l'espace. Je me suis beaucoup interrogé ce matin quand on a parlé de l'espace littoral. Manifestement, le terme littoral ne doit pas avoir le même sens pour tout le monde. La grande question que l'on peut se poser, c'est jusqu'où va l'espace littoral. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est quel est le sens de l'espace littoral pour la clientèle touristique actuelle. Vous prenez un Allemand, si vous le conduisez dans un avion qui va être bien fermé, qui dans un hôtel qui va être bien fermé, il va être dans son point de chute, si je puis dire, et il n'en bougera pas. Si c'est cela qu'on cherche, d'accord, mais ça, c'est l'ancien modèle. Si on veut que les gens soient libres, l'Allemand va venir par ses propres moyens, il va d'abord chercher où se trouve cette côte. Et je ne suis pas certain que le meilleur atout de votre région soit la Costa Brava. Est-ce que ce ne serait pas ce qu'il y a derrière? Est-ce que ce ne serait pas ce qu'il y a autour? Le tourisme intégré, c'est cela. Le tourisme intégré, c'est essayer de faire en sorte que ce que l'on vende, ce soit un espace dans lequel toutes les facultés d'une région puissent s'exprimer et toutes les possibilités de plaisir d'un individu puissent trouver place. Je crois que cette distinction entre littoral, arrière-pays, etc., est une distinction périmée, et de plus en plus. Et il faut donc raisonner à une autre échelle, avec un autre système. Enfin, cette notion d'intégrer et d'intégration est une notion sociale. Là encore, on l'a vu par les diapositives. Le touriste venait autrefois pour être tout seul. Il s'est fait construire sur la côte ses propres stations dans un espace désertique pour lui tout seul. Et il y avait là un certain nombre de modèles urbains. Alors, on peut reconstituer ces modèles urbains, c'est le néo-resort tel qu'on l'a vu sur les diapositives. Mais il y a une autre pratique touristique, c'est le tourisme d'immersion. Je veux dire, c'est le tourisme qui vient dans un milieu pour connaître ou pour essayer de mieux comprendre les gens du milieu. On peut très bien, quand on vient sur la Costa Brava, venir pour le golf qui se trouve derrière et pour faire du golf. C'est une pratique touristique et finalement qui est aussi honnête qu'une autre, et je n'ai rien contre cette pratique. Mais on peut aussi venir sur la Costa Brava parce qu'il y a toute une histoire dont on a parlé ce matin, parce qu'il y a toute une vie locale que l'on peut voir chaque jour, et on vient aussi pour s'imprégner de cette vie locale. Ce qui me paraît important, c'est que l'on puisse justement intégrer le tourisme dans l'espace et dans la société locale. Alors, je reviens pour terminer, pour conclure sur ce que je vous disais. Je crois qu'effectivement, on ne peut guère parler de nouveaux modèles touristiques. Il n'y a pas, je crois, et c'est peut-être très bien, un nouveau modèle. Il y a peut-être 36 000 modèles différents, qui sont tous aussi valables les uns que les autres. Ce n'est pas de jugement moral à porter sur tel ou tel modèle. Le seul problème, et c'est un sacré problème, c'est qu'on a, pour beaucoup de littoraux, fonctionné dans les années 50-60 comme s'il n'y avait qu'un seul modèle. C'était ce modèle centre-périphérie. L'exemple parfait, c'est la Costa Brava qui s'est laissée prendre par une demande étrangère. Une demande qui était plus importante que l'offre, c'est ce que M. Segui a dit ce matin, qui me paraît très juste. On avait l'impression qu'il y avait là une demande qu'on ne pourrait jamais satisfaire. Il y a plein de monde, donc on peut faire n'importe quoi, ils viendront toujours. Et puis, ce n'est plus vrai. Il n'y a plus maintenant un modèle, il y a 36 000 modèles. Et la question qu'on a à se poser, comment est-ce qu'un seul littoral peut répondre à 36 000 modèles différents? Je crois qu'il peut y répondre, à condition qu'il ne soit pas tout seul. Merci.
Los organizadores me han pedido que haga mi presentación en 20 minutos. De todas maneras, yo quisiera pedirle a los organizadores tiempo, por lo menos, para decir antes dos palabras. Una es gracias por la invitación que me han hecho ustedes para poder estar aquí en este foro en el que están hablando importantísimos especialistas en el campo turístico. Y la otra sería felicidades. Creo que es muy importante que universidades como la de Gerona se interesen por el turismo y sigan en su esfuerzo, que yo conozco por lo menos de hace ya unos cuantos años, por hablar del turismo, por montar estos encuentros, estas jornadas de turismo que me parecen muy importantes y que realmente no son tan abundantes como sería deseable en un país como España, en una región como Cataluña, en la que el turismo es tan importante. Presentación de esta tarde, que hemos llamado Perspectivas del Crecimiento del Turismo Internacional, se va a basar en una presentación de diapositivas que me van a ayudar a resumir un estudio que ha llevado a cabo la Organización Mundial del Turismo. Es este que les estoy mostrando, referido a Europa, pero realmente tenemos otros volúmenes que están referidos a otras regiones del mundo, América, África, Asia, etcétera, en el que se ha hecho un esfuerzo de previsión, de resumen, de cuáles serán las tendencias del turismo hasta el año 2000 y el año 2010, y cuáles serían los principales factores que influirían en la evolución del turismo internacional. Cuento con un señor Seguí, que me va a ayudar a pasar las... ¿Podrían apagar las luces, por favor? El estudio se realizó a principios de los años 90, del año 90, y ha sido un estudio que ha tenido varias fases en el que se han tenido en cuenta tanto los componentes tendenciales de las series históricas como las valoraciones que han hecho otras instituciones dedicadas a la previsión del turismo o de fenómenos que van muy anejos al turismo, como el transporte aéreo. Las previsiones que han hecho empresas del sector privado, turoperadores, agencias de viaje, o las previsiones que han hecho el sector público a través, preferentemente, de sus planes de desarrollo nacional en todo el mundo. Por favor. Antes de llegar a las previsiones, permítanme que haga una referencia a cómo hemos estimado el turismo internacional en la Organización Mundial del Turismo. En el año 1994 se han conseguido las cifras que ustedes ven en esta diapositiva. Son cifras que realmente ya empiezan a ser un poco molestas incluso para leerlas. Yo prefiero decir que en el año 1994, si el turismo se hubiese distribuido de una forma uniforme, cada día se habrían movido 1,5 millones de turistas y cada día se habrían generado 881 millones de dólares en el mundo. El crecimiento en los años más recientes del turismo mundial es el que muestra esta diapositiva. El año 91 refleja una caída indudablemente debida por los acontecimientos que afectaron a la zona del Golfo y también por algún decaimiento económico en los países emisores o tradicionalmente emisores de turismo, me refiero básicamente a Norteamérica y algunos países europeos. Parece que esa contención en los viajes, esa contención en la práctica del turismo, llevó a que el año 1992 se registrase un crecimiento que realmente no se correspondería con la tendencia observada en los años anteriores y con la tendencia observada en los posteriores. Digamos también que todo el tiempo me voy a estar refiriendo al turismo internacional, conforme han pedido los organizadores, pero en nuestra propia Secretaría hemos estimado con un cierto nivel de duda, pero digamos que las cifras serían razonablemente aceptables si pensamos que el turismo total, turismo internacional, más el turismo que practican los nacionales dentro de su propio país, sería 10 veces las cifras que están viendo ustedes en estas diapositivas. La, digamos, versión monetaria, lo que ha generado en ingresos turísticos esos flujos que hemos visto anteriormente, es lo que refleja esta diapositiva. De nuevo, vemos un crecimiento bajo en el año 91, un crecimiento anormal, digamos, en el 92, y un proceso de recuperación en el proceso de gastos de los años 93-94. En el año 94, los gastos turísticos se apoyan en un cierto reforzamiento del crecimiento económico, tanto en América del Norte, posiblemente en torno al 4%, es el crecimiento de su economía, o la europea, como media estaría en torno al 3%. Con lo cual, bueno, pues parece como que existen nuevas rentas o flujos de rentas disponibles que facilitan el que el turista, con términos medios, pueda tener un gasto más elevado. El turismo está creciendo, no solamente, como hemos visto en las anteriores diapositivas, en el corto plazo, con un cierto crecimiento sostenido, en torno al 3%, sino que si lo miramos respecto a lo que está creciendo con otros sectores de servicios y en series largas, es decir, por lo menos 10 años, hemos ofrecido que el turismo está creciendo más que el resto, también que las exportaciones de mercancías. Esto nos lleva a que, comparado con los sectores tradicionales de exportación, el turismo se haya colocado en el año 1992, en base a los datos de la OMT, del CAF y de la UNTA, es decir, hemos podido manejar solamente o manipular solamente los de una parte, los de las otras partes no podemos hacerlo. Aparece ya el turismo como el principal sector de la exportación de la economía mundial. El 8,35% del comercio mundial era turismo, seguido por las exportaciones de crudo y otros productos petrolíferos, y era del orden del 6,50%. No se trata, creo, de ser triunfalistas respecto a lo que es el turismo, pero creo que sí es importante que se conozcan esas cifras y que se difundan, porque a pesar del impacto que tienen, todavía el turismo no sigue gozando del aprecio social y del respaldo político muchas veces, que sería necesario, o por lo menos sería deseable, para que tuviese los recursos que tienen. Vamos a ver las cifras que les habíamos mostrado al principio, pero distribuidas por regiones. Europa es la parte más importante del flujo turístico internacional. De todas maneras, cabe señalar que esa parte importante cada vez es menos importante. Hace unos años, entre los 15 primeros países receptores del turismo internacional del mundo, 15 primeros países, que eran todos europeos o americanos, captaron el 7% del turismo mundial. En la actualidad, esa cifra ha caído al 60%. Otros destinos fuera de los tradicionales americanos y europeos ya tienen una cuota del 30% del mercado turístico internacional. Especialmente hay que hacer mención a la captación turística que ha hecho y que va a hacer Asia Oriental y el Pacífico, que ha crecido realmente con una potencia tremenda, y lo ven ustedes también reflejados en esta diapositiva en los ritmos de crecimiento que están teniendo los últimos años, normalmente casi siempre a nivel de dos dígitos. La tabla de ingresos, la diapositiva de ingresos, nos vuelve a mostrar sin grandes cambios lo que veíamos antes. Llamamos la atención de luego a los ritmos de crecimiento que están teniendo en destinos turísticos de Asia y el Pacífico. ¿Dónde crece más el turismo? Esta diapositiva nos centra en aquellas regiones o subregiones que están creciendo un poco más. Yo, por mi trabajo en la Organización Mundial de Turismo, soy el responsable de América, por lo tanto tiendo a focalizar el interés de las personas que me escuchan sobre América del Sur, pero es que creo que es muy importante. Creo que es muy importante lo que está pasando en áreas no tradicionales del turismo internacional. América del Sur está creciendo a ritmos casi asiáticos, como ven ustedes en esta diapositiva, gracias a la confluencia de varios factores que están dando. Uno es el propio crecimiento que está teniendo la economía en los países latinoamericanos, la voluntad política por desarrollar los destinos que están allá, en tercer lugar por la calidad de los productos turísticos que están siendo capaces de poner en marcha, muy adecuados a los requerimientos de los turistas de la propia región, de Europa y de Norteamérica. En cualquier caso, bueno, pues ven ustedes también como de nuevo Oceanía, hasta el principio de todo, sigue siendo de las subregiones en las que se reflejan mayores crecimientos. Donde crece menos es en las zonas que se identifican en esta diapositiva, y quizá podríamos encontrar todo tipo de razones para explicarlo, pero como decía antes los interlocutores, Santiago, también elementos como seguridad, elementos como percepción de la seguridad, básicamente por parte de los turistas, son los que están influyendo tanto en el caso de Egipto, en el área de Oriente Medio, Argelia, por ejemplo, Turquía. Hemos hecho también una referencia a los factores cualitativos, a las variables que pueden estar influyendo en los resultados que vamos a ver a continuación. Las hemos agrupado, esas variables, en cuatro tipos: los sociales, tecnológicos, económicos y políticos. factores sociales son los que en el año 1990 a unos 146, me parece que es la cifra, en el año 2010, es decir, estaríamos en el subgrupo de destinos turísticos que tendrían un crecimiento importante, digamos, de 50 millones de llegadas en esos 20 años.